Première partie.
La dernière tempête m'oblige à rester terré dans la cabane. Le vieux sol a colmaté les interstices autour de la fenêtre et sous la porte avant l'hiver. Pourtant, le souffle du ciel est si puissant qu'il s'infiltre malgré tout. Traverse les pierres des murs pour enrouler ses bras glacés autour de mes chevilles, de mon cou. Me murmurer à l'oreille des histoires d'errance et de voyageurs pris dans les glaces. Un vers isolé me revient du passé, de l'enfance, me semble-t-il. Je viens de si loin que le nord s'enroule autour de ma gorge. Ces mots sont associés dans mon souvenir à un dessin représentant le vent du nord sous la forme d'une jeune femme, ou s'agit-il d'un jeune homme, aux traits à la fois délicats et volontaires, à l'expression sauvage et mélancolique. Le regard clair, pur et absolu comme une nuit d'hiver. Un être androgyne magnifique et merveilleusement triste qui m'évoque les hautes terres nappées de brume, les cascades dévalant les montagnes désolées, la lumière presque boréale qui s'invite certains soirs. Mon royaume. Sur ma petite table, la chandelle vient de s'éteindre. Aussitôt rallumée, la flamme vacille dangereusement jusqu'à ce qu'une nouvelle et impérieuse bourrasque la fasse disparaître. Le vent, ce soir, ne tolère pas la présence du feu. Écrire m'est donc devenu presque impossible. Voilà 14 années que je vis seule sur cette île perdue au milieu de l'océan Atlantique, avec pour seule compagnie humaine celle de Sol. Il ignore son âge, mais était le servant de la précédente Sibylle, morte très âgée 1 an avant mon arrivée. Sol est couché sur sa paillasse dans la petite cellule attenante à ma cabane. J'ai bien chargé son brasero, lui ai donné du bouillon d'algues et de fulmar séché, avant de le border comme un enfant. Je crains qu'il ne passe pas la nuit. Je tente de ne pas penser à sa mort. J'ai toujours cru que la solitude absolue me conviendrait tout aussi bien que de partager mon existence avec ce très vieil homme perclus de rhumatisme, à la cervelle gentiment dérangée. Mais j'éprouve une grande peur depuis qu'il est alité, que je ne l'entends plus chantonner derrière moi lorsque je monte au fort pour assister au lever et au coucher du soleil. Depuis que je ne vois plus son visage s'éclairer de ce bon sourire vaguement surpris qui donne l'impression qu'il vous découvre chaque jour pour la première fois avec une joie renouvelée. Il n'a pas complètement perdu le nord. Il s'est simplement retranché dans un monde intérieur dont l'illusion n'est contrariée par rien de ce qui l'entoure. Peut-être ce monde est-il d'ailleurs une version très légèrement différente de la réalité qui est la nôtre ici. Ou bien sa vie intérieure est-elle émaillée de très anciens souvenirs du temps d'avant, avant son arrivée en ce lieu lorsqu'il était un jeune garçon de 12 ou 13 ans. Je n'en saurai jamais rien. De même qu'il ne saura jamais qui je suis, quelle fut ma vie avant de m'échouer sur cette île. J'écris pour expier. J'écris pour m'obliger à revivre le passé et à affronter celle que je fus. Je dois savoir si cette femme qui vécut dans le monde pendant près de 35 années existe encore quelque part en moi. J'ai voulu me jeter de la falaise du fort de l'Ouest au bout de quelques semaines sur l'île, comme l'ont fait tante Sibylle. Car rares sont les femmes qui ont assez de force morale et de santé pour survivre à cette existence. Je ne pensais pas pouvoir supporter cette solitude, la beauté âpre et violente des lieux. Les possessions dans la grotte. Je me croyais, et me crois toujours, indigne de succéder à toutes celles qui ont vécu ici. Je m'estimais incapable d'entendre ce que la terre a à me dire. Comment rendre les oracles avec une âme aussi noire que la mienne? Comment un être malfaisant peut-il devenir l'instrument par lequel parle notre mère la terre? Sans doute ce mystère ne s'éclaircira-t-il jamais pour moi. Je me suis couché tant de fois sur les grandes pierres plates et humides au fond de la grotte, après un jeûne de 3 jours et 3 nuits. Et elle s'est toujours manifestée, m'a délivré les visions du passé et de l'avenir que j'ai à mon tour offertes aux humains qui venaient me visiter 2 fois par année. Chaque étreinte dans la grotte me laisse exténuée et incrédule, hantée de lointaines et fugaces rémanences d'images dépourvues de sens. Je suppose que ma grand-mère disait vrai lorsqu'elle affirmait que j'avais le don depuis la naissance. Je n'avais pas 4 ans quand une servante m'a trouvée endormie au pied d'un très vieux chêne. J'étais couchée sous les feuilles mortes comme un hérisson, lové entre ses racines. Je suis restée 2 jours à sommeiller dans ses bras avant que l'on me découvre. Je n'éprouvais ni la faim, ni le froid, ni la peur. Je partageais la vie de l'arbre, je respirais au rythme de sa propre respiration, et il dévidait dans mon esprit ses pensées et ses songes, les réminiscences de son passé, sa perception suspendue, étirée du temps et de l'espace. Lorsque j'ouvris les yeux et aperçus les visages soulagés autour de moi, je fus traversée d'un terrible pressentiment. Il aurait mieux valu que je reste sous l'emprise du chêne, qu'il finisse par m'engloutir, par me faire disparaître en lui, et que je le rejoigne à jamais dans sa longue veille. Le vent couvre la toux de sol. Il rugit avec encore plus de fureur à mesure que la nuit s'engage et m'oblige à renoncer à écrire. C'est sans doute un signe qu'il m'envoie. Cesse de coucher ces vieilles choses sur le papier, ma fille, et arrête de maugréer à propos de ta destinée et de ta petite personne. Tu es venue sur ce morceau de rocher pour trouver l'oubli, l'anéantissement de toute volonté autre que celle de servir la terre, ta mère. Tu avais bien travaillé jusqu'ici. Tu avais lentement pâli, tu n'étais presque plus personne. Ton immense et vorace orgueil semblait terrassé, ta mémoire nécrosée. Il ne te restait plus qu'à mourir seul et en silence, car il est bien peu probable que l'on t'envoie un autre servant. Plus personne n'a débarqué dans l'île depuis près de 2 ans. Les hommes t'ont oublié. Tu t'étais résigné, et voilà que la fin imminente de ce pauvre barbon te donne des états d'âme. Chut, tais-toi donc, vent. Tais-toi, et va persifler ailleurs. Je ne suis pas encore éteinte. Je ne suis pas cette chandelle qu'un de tes soupirs réduit à néant. Il se fait que je ne peux pas disparaître sans régler mes comptes avec moi-même, comprends-tu? Après, nous verrons bien. Tu pourras tout à loisir me murmurer tes paroles de mort et de désespoir. J'ai compris, tu ne permettras pas que j'écrive cette nuit. Qu'à cela ne tienne, je m'en vais tenir compagnie à mon vieux barbon. Je n'ai pas besoin de lumière pour le rejoindre. Tu m'obliges à user de toutes mes forces pour ouvrir la porte. Le ciel est agité, c'est comme si les antiques titans s'y livraient bataille, déchirant les nuages, projetant des éclairs à la face de la lune effarée. Je lève un poing coléreux vers le ciel à l'intention du vent, puis j'empoigne la corde rivée dans le mur qui relie nos deux habitations et nous permet de ne pas nous envoler les nuits comme celle-ci. Sol est éveillé, et c'est avec un immense soulagement que j'aperçois son doux sourire. Jamais je n'étais aussi heureuse de le voir. Je voudrais qu'il vive, qu'il guérisse et reprenne sa vie paisible à mes côtés. Ô Sol, mon vieux, reste avec moi. Ne m'abandonne pas. Je lui prends la main et aussitôt il pose son autre main sur la mienne et la tapote en marmonnant des choses presque inaudibles. Pour la première fois, je tente de comprendre ce qu'il dit. Je m'approche de ses lèvres d'où s'échappe un souffle tiède, légèrement parfumé au teint sauvage. « Alba, » murmure-t-il. Alba, c'est l'ancien nom de mon pays. C'est aussi mon nom, celui que je croyais avoir oublié, celui que j'ai maudit. Alba, le nom de l'infamie et de la honte.